Les premiers signes, ben, c'était des signes de faiblesse. Et donc, ça a été des troubles neurologiques et on est allé voir un médecin. Et ben, ces troubles neurologiques, on ne savait pas trop ce que c'était. Et on nous a dit, écoutez, on a fait énormément d'examens et on n'arrivait pas à mettre un nom sur cette maladie. Et on a pris quand même bien 2 ans pour mettre un nom. On est allé à Paris. Et à Paris, on a refait les examens. On est tombé avec un professeur qui nous a dit, lorsque les signes neurologiques deviennent probants, à ce moment-là, on peut mettre un nom sur la maladie. Donc, il y avait une suspicion d'un syndrome, c'est le syndrome de Scheidreger. Et donc, c'est une dégénérescence du système nerveux central. L'espérance de vie, c'est 4 ans, 5 ans maximum. Donc, le couperet tombe et à Paris et on lui dit, voilà, monsieur, il y a une suspicion d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Scheidreger. Et voilà, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'accepter cette maladie parce qu'il n'y a pas de traitement. Nous, actuellement, la médecine permet de soigner les conséquences, mais pas la maladie en elle-même. Donc, on revient, on rentre à La Réunion, et puis ben, on vit un compte à rebours. On vit le compte à rebours de la mort. On se dit, mais il va mourir, et c'était impressionnant. Pendant un an, on avait l'impression que, en vivant ce compte à rebours, qu'il allait mourir tous les jours. On essayait de vivre à 100 à l'heure. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait.
C'est vraiment profiter du moment, c'est ça? 100 à l'heure.
100 à l'heure, c'était prévoir l'avenir pour nos enfants déjà.
Ah oui, parce que vous avez combien d'enfants?
Deux. Prévoir l'avenir, ils sont en bas âge.
Quel âge ils avaient alors?
10 et 13 ans.
D'accord, c'est très jeune.
Très jeune. Et c'est jamais. C'est petit, hein, parce que c'est un âge où ils ont vraiment besoin des parents. C'est un âge où 13 ans, c'est pas un adulte, hein, c'est une pré-ado.
Ils ont déjà leurs questionnements et en plus, voilà, là, on leur en rajoute, quoi.
On leur en rajoute et puis on leur laisse pas.
Ceux de la mort. Enfin, le
on leur explique
mort.
Que. On leur explique, ben voilà. Alors on a joué la carte de la vérité avec nos enfants et on s'est dit, on est révolté, mais en même temps, les choses vont tellement très très vite que bon, on n'a pas le temps de passer des étapes. Non, non, il faut que ben, on devient très vite. On est devenu très vite réaliste, hein, à cause des gamins, parce qu'on n'a pas le temps de vivre. On n'avait plus le temps, on n'avait plus le temps pour rien. On avait juste le temps de vivre l'instant présent, de profiter de ce père qui était en train de dépérir, hein, de perdre toutes ses fonctions au fur et à mesure.
Parce qu'en plus de la mort, on voit la personne se dégrader, entre guillemets, enfin le mot dégrader un peu dur.
La mort, elle est présente pour tout le monde à chaque instant. Enfin, on a tous une épée Damoclès dès la naissance. Hein. On n'a pas.
Oui, mais on n'y pense pas quand on n'est
pas
malade. Pas,
voilà. Mais quand on est malade et que on voit toutes les fonctions s'éteindre les unes après les autres et qu'il faut réadapter sa vie, réadapter sa vie à une vitesse fulgurante, continuer à vivre comme si que ben rien ne se passait, parce que ce n'était pas du déni, mais il fallait continuer à vivre pour nos enfants, il fallait nous oublier pour que nos enfants ben ils puissent grandir
comme les autres.
Et c'était à la limite, la maladie, elle était là, elle était fallait pas qu'elle détruise l'unité familiale. Il fallait pas détruire notre objectif. C'était parce que bon, on vit avec des projets de vie, hein, quand on a ce genre de maladie. La seule chose qui fait tenir, ce sont des projets.
Il y a cette maladie. On sait qu'il y a la mort au bout, qu'on ne pourra pas forcément être...
On va vivre l'instant présent. Ouais. Il y a la mort au bout, on a peur, parce que c'est une peur qui vous prend, qui vous tenaille. La mort, elle est là, elle est... on ne sait pas trop, parce qu'on ne la connaît pas, cette maladie. Ce n'est pas visible, c'est pernicieux, c'est très... les fonctions s'éteignent parce que là il n'y a plus d'influx nerveux, donc on commence par perdre l'équilibre, à perdre la marche, on n'a plus tout s'éteint au fur et à mesure, et elle monte, elle vous enferme, vous êtes dans une tour d'ivoire, et on n'a que l'âme, on n'a que le parler. À la fin, il y a que la parole et le mental qui restent.
Il y a encore la parole.
La parole, très peu.
Parce que c'est difficile.
La déglutition, elle est atteinte et on se voit mourir à petit feu. On est comme une bougie qui s'éteint, qui se consume. Et on se consume lentement. Et donc, mon mari a perdu toutes ses fonctions vitales au fur et à mesure. Et ça a commencé par la marche, la marche, les bras, les mains, le corps, c'est un corps mort. Et il n'y avait que la tête qui bougeait. Il lui restait juste le goût, l'odorat et la vue. Et la liberté de penser.
Et Louis aussi.
Et Louis,
il entendait aussi.
Et Louis.
Mais le toucher, il a perdu le toucher.
Le toucher, il avait tout perdu. Il y avait que...
Il ne ressentait plus si vous aviez passé... une caresse, il ne le sentait pas forcément.
Il ressentait la caresse, il ressentait
lui, il
tout ça. Mais entre la volonté de bouger son bras, la volonté de bouger sa main, il y avait simplement cette volonté. Il n'y avait plus cet influx nerveux qui permettait de lever le bras. C'était un corps mort. Avec une âme vivante.
Qui ne pouvait plus exprimer son amour que par les mots, quoi.
Que par les mots. Que par le regard.
Le regard aussi, oui.
Le regard. Et il nous arrivait de ne pas parler, mais simplement de se regarder, de savoir on se comprenait.
Ah, on développe d'autres choses.
On développe. L'intuition est très développée. L'ouïe est très développée.
En fait, on se réadapte peut-être un peu.
On n'est pas obligé de se réadapter.
Justement, c'est difficile peut-être la réadaptation, mais ça dépend de comment on vit sa maladie. Et votre mari, il la vivait comment? Qu'est-ce qu'il en disait?
Il avait appris à accepter, parce qu'il voulait vivre.
Il y avait une soif de vivre?
Oui, une grande soif de vivre, une grande soif de... Il aimait la vie, il aimait les autres.
Il aimait la vie malgré le fait qu'il ne pouvait plus bouger, plus en profiter comme avant?
Il avait appris à aimer la vie. Il avait appris à aimer la vie par amour pour nous, par amour pour ses parents. Et il voulait voir grandir ses enfants.
Le plus possible, en fait.
Le plus possible. Il y avait la foi, il y avait l'espérance.
On peut avoir encore foi en Dieu quand on est malade comme ça. Il y a eu un moment de révolte quand même. Où on se dit, mais Dieu, mais tu existes, qu'est-ce que tu fais?
Oui, la révolte est là.
Il y a eu cette révolte, hein?
Oui, quand même. Mais c'est pas la faute de Dieu.
Mais on perd pas la foi.
Non.
Peut-être que vous aviez une foi vraiment très ancrée, alors.
C'est pas une question d'avoir une foi très ancrée, c'est une question où on apprend à... La maladie vous apprend à accepter. Vous avez des repères, vous avez de l'espoir, vous avez de l'espérance. La foi, c'est quoi? La foi, c'est pas de dire 10 chapelets, de dire bon, c'est bon, j'ai 10 mes 10 chapelets, le bon Dieu va me faire un super miracle, il va venir, il va nous mettre. T'as bien récité ta prière et tu as la foi. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est d'accepter ce qui vous arrive. La foi, c'est de vivre tous les jours. de vivre tous les jours en se disant « Mais mon Dieu, c'est vrai, c'est une épreuve, mais l'épreuve, qu'est-ce que j'en fais de cette épreuve ?» Où je suis révoltée et à ce moment-là, je suis parasitée par ma révolte et j'avance vraiment pas. Je suis en colère contre le bon Dieu, qu'est-ce que ça va apporter ? Je suis en colère contre le monde entier, qu'est-ce que ça va donner ? Et pendant ce temps, je rate tout. Je rate tout. Il y a un compte à rebours, il y a la maladie qui est là, la maladie qui dit que je suis là, de toute façon, je vais pas partir comme ça, hein. Le plus beau miracle, mon pauvre ou ma pauvre, c'est d'apprendre à vivre avec moi et d'accepter. Alors, de cette maladie, qu'est-ce qu'on en a fait d'un ennemi, de l'intrus? C'est devenu peut-être pas un ami, mais on a appris à donner la main à la maladie pour pouvoir continuer à vivre.
C'était un voisin un peu embêtant, c'est ça ? La maladie ? Le voisin qu'on n'aime pas parce qu'il nous embête.
Oui, mais quand on est obligé de vivre, on accepte. On accepte, ça ne sert à rien de se dire « mais je vais me battre ». Le plus beau combat, c'est de continuer, c'est pas de vivre dans le déni, c'est pas ça. Mais c'est de continuer, de réadapter sa vie, de réapprendre à vivre. C'est vrai que ça, c'est pas facile d'en parler parce que c'est des choses qu'on veut oublier, hein, parce que il est décédé depuis.
Et il est décédé depuis combien de temps ?
Deux ans. Deux ans.
C'est récent.
Oui.
On fait le deuil.
On fait le deuil, je ne sais pas si c'est un deuil, parce qu'on n'oublie jamais. On ne fait pas le deuil de l'autre, parce qu'il est toujours présent. Il me donne toujours la force de vivre. Il est bien là où il est, parce qu'il fallait que ça s'arrête. Hein, parce que c'est inhumain de vivre emprisonné dans son corps. Il s'est éteint doucement. Il avait brûlé toutes les cartouches parce qu'il était, même à la veille de sa mort, il me disait, tu sais, si on me donne encore 3 mois de sursis, je suis partant. Après, je m'en irai. Je voudrais voir que mes enfants, je voudrais voir que ma fille réussisse. Je voudrais savoir que ma fille est diplômée. Je voudrais voir mon fils... passer le cap de sa première année, je voudrais 3 mois, c'est suffisant. Et il a accepté, on s'est dit au revoir, parce qu'on savait que c'était terminé.
Il sentait qu'il allait mourir.
C'était fini, on lui avait mis une sonde gastrique, et il était bien conscient que l'espérance de vie, c'était un sursis de 3 mois, et pas plus. Et il était bien conscient que... après ce geste, parce que 15 jours avant, il mangeait encore. La déglutition fonctionnait encore. Et là, c'était terminé. C'était terminé, il était conscient de tout ça. Et il savait que qu'on ne pouvait plus rien faire. Doucement, on s'est dit au revoir. On s'est dit, on s'est beaucoup parlé. Nous avons été très très bien entourés pendant ces 11 ans de maladie.
La famille n'a pas déserté ?
Je dirais que sur le moment on est peut-être, je dirais pas déserté, mais après avec du recul, on peut comprendre que ça n'intéresse pas les gens. On ne peut pas les en vouloir.
On a peur de la mort, en fait.
Voilà.
En règle générale, c'est la vie qui nous attire.
Sur le moment, moi, j'étais révoltée. Mon mari l'était moins parce qu'il devait vivre cette maladie. Il devait garder toute son énergie pour ça. Moi, je devais être moi, avec ma propre révolte, avec sa révolte, celle de mes enfants. Je devais vivre, porter tout ça. Oui, j'étais révoltée par ceux qui détournaient le regard. Mais ça n'a duré qu'un temps. Hein. ça s'est pas éternisé. Hein.
Qu'est-ce qui vous a aidé justement à ne pas être trop révolté, à ne pas, je sais pas moi, la révolte peut amener loin, je pense, parfois.
J'avais appris à accepter, parce que mon mari m'avait appris à accepter sa maladie. On s'est donné la main pour affronter, pour accueillir en même temps. C'est un doux mélange, hein. C'est pas évident. On s'est donné la main, on s'est dit, on va la vivre, on va essayer de se battre pour avancer, pour accepter, pour... Il y a beaucoup d'acceptation qui est rentrée là-dedans. On a été beaucoup aidés par des amis, on a eu énormément d'amis.
Il y a quand même, oui, des gens qui, au final, vont peut-être se rapprocher alors qu'ils ne l'étaient pas avant,
oui,
c'est ça?
Oui, on a eu de nouveaux amis.
Il y a une chaîne de solidarité
Il y a une chaîne de solidarité qui s'est instaurée, mais d'elle-même. Hein. Ça a été, le tri sélectif s'est fait de lui-même.
Hein. Ceux qui pouvaient aider étaient là.
Voilà, ceux qui ne pouvaient pas, ça s'est fait naturellement. Sur le coup, ça nous a fait énormément mal parce que on attend toujours beaucoup des autres et on s'est très vite rendu compte que on ne peut compter que sur soi-même, mais que ce n'est pas la faute des autres non plus, hein, parce que chacun a ses limites.
C'est problématique.
Et oui, c'est problématique. Et donc nous, on s'est donné la main et on s'est dit on avance. Et la seule révolte qu'on a eue, et surtout moi, c'était quand il y avait une injustice dans ce qui était de l'ordre administratif, de l'ordre des besoins, des aides qu'on avait. Là, on pouvait être révolté et on réagissait. Ce qui est logique, je dirais, pour quiconque, hein, c'est logique. Après, nous étions des êtres normaux, nous n'étions pas plus, pas moins que les autres, et mon mari avait le droit à la vie. Il avait le droit de vivre comme tout le monde, il avait le droit d'être aimé comme tout le monde et il avait surtout le droit d'exister. Même avec un polyhandicap, il avait le droit d'exister. Donc on a vécu des choses extraordinaires que le commun des mortels forcément ne le fait pas. Toujours, on a eu des gens extrêmement merveilleux qui nous ont portés, mais tous les jours, dans la prière, dans leur présence, dans leurs actes. Et on a appris ce que c'était l'amour, recevoir l'amour des autres, sans donner en retour, parce que nous n'avions rien à donner, strictement rien. Dans l'épreuve, on revient à des valeurs beaucoup plus terre à terre. On oublie souvent, on se plaint tous les jours. Et nous avons appris qu'il était inutile de se plaindre et que tout était beau chaque instant, chaque seconde. Pas une minute, on a perdu. Pas une seconde, nous avons perdu. On a appris à vivre pleinement. Et nous étions heureux, et nous le sommes toujours aujourd'hui, je dirais. L'épreuve nous a appris, nous a rassemblés. L'épreuve nous a rapprochés. L'épreuve nous a fait grandir.
Est-ce qu'elle vous a fait grandir dans la foi, cette épreuve?
Oui.
Ou est-ce que la foi était déjà trop grande et non, plus besoin de la faire grandir?
C'est de la prétention, là, par contre.
D'accord, pas du tout.
C'est de la prétention. La foi, je dirais qu'elle n'est pas...
Elle était comment avant?
Elle n'est pas quantifiée.
Ouais.
On ne peut pas. Ça ne s'explique pas.
Mais ça, avant, vous alliez à la messe
c'est pas d'être à la messe tous les dimanches ou d'être en train de, je vous ai dit, de faire son chapelet en sans arrêt 24 heures sur 24. C'est pas ça la foi. La foi, c'est d'accepter, c'est de vivre avec les autres. La foi, c'est d'aider les autres. La foi, c'est de s'accepter déjà tel qu'on est et d'aimer. De s'aimer d'abord pour pouvoir aimer l'autre.
Oui, mais on entend la Jacqueline qui a connu justement une épreuve dans sa vie. Mais avant d'être cette Jacqueline-là, vous aviez cette foi-là qui dit « on apprend à s'accepter ». Enfin, est-ce que vous vous rappelez quelle croyante vous étiez avant?
Avant?
Ouais, avant cette maladie-là.
Ah ben j'étais une bonne vivante, hein. Une bonne croyante, mais vivante.
Ah bon, quand même.
Aujourd'hui encore, même après, mais je m'étais jamais posé de questions concernant l'épreuve. Je ne savais pas ce que c'était l'épreuve. Je ne savais pas qui j'étais parce que je ne savais pas quelles étaient mes limites. La vie m'a modelée. La vie m'a appris à vivre, je dirais, différemment. J'étais, je dirais, sur le fond, j'ai toujours été ce que je suis toujours aujourd'hui. Sur la forme, peut-être que j'étais totalement différente, mais au fond de moi-même, j'étais toujours moi. Et j'avais toujours cette foi, j'avais toujours ce repère. Vous savez, on s'accroche, on se décroche quand il nous arrive des épreuves. Et j'ai toujours eu confiance en Dieu.
Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes accrochée comme ça à Dieu? Ben oui, parce que c'est plus facile peut-être de dire, ben il n'existe pas.
Je ne me pose même pas la question.
Vous savez pas pourquoi
Je ne me pose
vous
pas
avez
de question.
Vous avez pu vous accrocher
Non, je ne me pose pas de question. Je vis simplement ma vie d'humaine, de mère de famille, d'épouse. Et
ce sont vos parents qui vous ont donné cette éducation-là?
Non.
Ce ne sont pas eux qui vous ont dit, voilà, Dieu c'est ça. Enfin, non. D'ailleurs, Dieu pour vous, c'est qui?
Ah, mais c'est tout le monde, c'est la vie, c'est l'univers, c'est tout le monde.
Mais certains pourraient répondre, bah, Dieu c'est un père, ou un ami, ou...
Oui, c'est un ami, c'est un père, c'est tout.
C'est tout alors.
Ouais. C'est tout, c'est tout.
C'est tout c'est et tout. C'est à travers tout, c'est ça?
C'est tout et à travers tout, et avec l'intime conviction que quand ça va pas, c'est vers lui que je me retourne, quand ça va, je me retourne aussi vers lui, mais... Quand ça va ou quand ça va pas, je sais que il est là. Il est là. Il se dérobera pas. Et l'épreuve, c'est pas Dieu qui l'envoie. C'est pas Dieu. On peut pas lui affubler tout ce qui va bien ou tout ce qui va mal, c'est lui, c'est de sa faute. Ce serait trop facile.
Oui, mais on n'est pas responsable de sa maladie.
Mais c'est la vie.
Ah bon? Oui, je veux dire, votre mari, il n'a pas...
Il n'a pas cherché.
Il n'a pas cherché à avoir cette maladie-là, quoi.
Non, il n'a pas cherché, mais c'est la faute à personne.
Et même pas à Dieu.
Ben non, pourquoi voulez-vous que ce soit sa faute?
Ben parce que beaucoup de non-chrétiens vont dire, mais si ton Dieu, il faisait les choses, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas... Voilà, il n'y aurait pas la souffrance, il n'y aurait pas la maladie, il n'y aurait pas ces enfants qui meurent de cancer et ce genre de choses.
C'est pas la faute de Dieu, nous sommes humains, nous vivons dans une société où il y a du bon, du mauvais, et après ce sont des maladies, il faut bien qu'un jour ou l'autre on meure, hein. Mais ce qui est dommage, c'est que je n'accepte pas, je dis pas que j'accepte, hein, ce qui arrive, non, loin de là. Mais nous vivons dans un monde d'humains. On a des imperfections, un arbre, tout ce qui est vivant, un jour ou l'autre, il lui arrive, enfin tout ce qui est vivant a forcément l'usure du temps qui fait que ça se voit. Et comme comme tout être humain, on ne peut pas rester forcément tout le temps jeune, on devient vieux, c'est aussi une forme de maladie.
On peut avoir cette chance-là, de devenir vieux, c'est ce qu'on pourrait dire.
Oui, je dirais, oui, effectivement. On peut avoir cette chance de devenir vieux, et on a aussi je dirais, c'est pas la faute de Dieu.
Société où, au final... On regarde beaucoup les apparences, et puis on a peur de vieillir, on a peur d'être faible. Alors qu'au final, chacun a une fragilité, et peut-être qu'on a à apprendre à transcender cette fragilité, non, c'est pas ça?
Alors justement, il faut savoir être faible pour devenir fort. Il faut savoir tomber pour se relever. Dans l'épreuve, je suis tombée, j'ai pas honte de le dire, tombée très très bas. Ça vous démolit. Vous avez deux choix. Ou vous continuez sur la voie de la démolition et à ce moment-là, la maladie, elle devient très vite victorieuse parce qu'elle...
Oui, c'est elle qui gagne.
Elle irradie mais tout le monde, ouais. Et elle démolit. Et puis, elle est là, de toute façon, elle va irradier. Hein. Il y aura des conséquences sur tout le monde, ça c'est certain. Mais, ou alors, vous avez aussi le choix Le deuxième choix, c'est de dire je cohabite avec cette maladie et j'avance. Et j'avance. Parce que c'est comme ça. C'est pas dans la vie de tous les jours, on peut trébucher. On va tomber. Il faudra prendre un temps pour se relever. Il faudra surtout pas brûler les étapes. Et nous avons essayé. Je dis bien essayé parce que je n'ai pas la prétention de dire que on réussit. C'est pas ça. Non. On s'est dit, on va essayer. On est tombé. On s'est pris un coup. On a été, mais littéralement, je dirais, ça a été un véritable tsunami. C'était, je dirais, c'était comme si le ciel vous tombait sur la tête et la terre dérobée sous vos pieds. On a vécu ça.
On perd ses repères, en fait, c'est ça?
Non, on ne peut pas dire perdre ses repères. On est abasourdi. On est anéanti. Être anéanti, c'est pas forcément de perdre ses repères. Être anéanti, c'est... On prend un coup. On est abasourdi et on se dit mon Dieu, et c'est là qu'on se dit mais qu'est-ce que je peux faire, comment faire, je n'ai pas le droit de me laisser aller, j'ai une double responsabilité, j'ai celle de mon mari dans l'accompagnement de cet homme qui est en train de perdre, de se voir mourir. J'ai la responsabilité de ces enfants qui n'ont rien demandé, ils sont victimes, hein, d'un accident de la vie. Ça aurait pu être... c'est un accident de la vie. Et... je n'ai pas le droit. Et moi, je me suis dite, personnellement, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Christian, lui, il a été très vite réactif. Il m'a dit, écoute, on va se battre. Contre qui? On ne sait pas. C'est sûr que au final, on sera perdant, mais pendant ce temps, il y a la guerre, il y a la grosse bataille, et on va s'y mettre. On va s'y mettre et on va essayer, je dis bien essayer d'affronter cette horreur, parce que c'est l'horreur, hein. On va essayer d'affronter et on va essayer surtout de survivre à tout ça, sans prétention. Et on l'a fait. On a essayé. On a tenu 11 ans. Il a tenu 11 ans. Il y avait des pleurs, il y avait des joies. Nous étions, mais totalement vivants.
Oui, parce que des fois on vit. Mais
bah oui, parce qu'il y a des gens, qui sont dans la rue.
On est en mode automatique.
Voilà, ils sont en mode automatique et nous avions conscience de l'instant. Nous avions conscience de ce que nous allions perdre surtout et que ça va très vite. Nous voulions rien perdre. Nous étions devenus des voraces de la vie, de l'existence, et on voulait que rien ne nous échappe, et lui surtout. Alors il a appris à regarder le monde par la fenêtre, par l'informatique, par Internet. On construisait notre vie sur des projets de vie. Nous avions toujours des projets. Alors que avant, on était comme tout le monde. On vivait. Mais ça a été 11 ans de projet. 11 ans des des projets, mais qui vont pas chercher loin. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, hein. On n'a pas besoin on n'avait pas besoin de décrocher la lune. Non, c'était des choses très très simples. Pouvoir aller au moins une fois par mois au restaurant avec un fauteuil qui pèse plus de 100 kilos, avec quelqu'un qui bouge que sa tête et d'aller...
Et le regard des autres. Oui. Il y a le poids du regard des autres.
C'est pas grave.
On arrive à passer ça.
Ça tue pas.
Votre mari, je suis sûre, enfin, avant, il était peut-être sportif, je sais pas, enfin... Vous avez vu quand même une différence entre celui que vous avez épousé.
Je l'ai jamais vu handicapé.
Pour le meilleur.
Et pour le pire. Mais je l'avais pas vu, je le voyais pas handicapé. Quand j'étais trop fatiguée parce qu'il fallait que je porte, que je fasse les transferts, que je le porte, hein. Que je m'en occupe et que quand j'étais trop fatiguée, eh ben on s'asseyait, on pleurait un bon coup
ensemble,
on s'arrangeait pour pas pleurer devant les autres,
oui, devant les enfants aussi je suppose,
pas devant les enfants,
ouais.
On s'arrangeait toujours à, on avait notre moment où on disait aux autres on ferme quoi. C'est fini là, il n'y a plus de place pour les autres. Et on avait un moment pour nous, où on pouvait parler, où on pouvait se dire, où on pouvait pleurer, où il n'y avait plus de secret. Il y avait un libre échange, où avec nos défauts, nos qualités, on se disait tout. À l'extérieur, les gens peuvent pas comprendre. C'est au pied du mur que le maçon y voit la tâche.
En fait, à l'extérieur, on vous voit et on a pitié, non?
Peut-être.
On sait pas ce que vous vivez.
Oui, mais on voulait pas de la pitié des autres.
Et on voit que, juste... Oh, la pauvre, non? Ou, oh, le pauvre aussi, vous êtes deux dans une situation difficile.
Oui, et puis je
que
dirais
personne
que...
personne n'aimerait vivre.
Oui, et puis... Oui, certainement. Certainement. Avec du recul, je dirais que... Je ne souhaite à personne de le vivre. Je ne le souhaite à personne. C'est très dur parce que on doit faire le deuil. Et là, je reviens dans la notion de deuil où nous avons dû vivre le deuil de notre vie d'avant. Et nous avons dû renaître, apprendre à réapprendre à vivre différemment. Et le deuil, on a dû faire à chaque étape de la maladie. On a dû faire le deuil de chaque fonction vitale.
C'était des deuils à répétition, donc.
Oui, parce que si on ne faisait pas ce deuil, on ne pouvait pas continuer.
Il fallait avancer.
Il fallait avancer. Il fallait avancer à tout prix, parce que... Et c'est là que je me dis, si j'avais pas la foi... Vivre, je dirais, je sais, ce serait prétentieux de dire « moi, je, non ». Si nous n'avions pas la foi, quand je dis « nous », c'est lui, les enfants et moi-même. Si nous n'avions pas cette unité et cette valeur de famille, nous aurions... On aurait sombré, et ce serait fini.
Et même vos enfants ont gardé la foi?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr, c'est après... ils avaient cette espérance. C'est quoi la foi?
Du miracle?
Le miracle, c'était tous les jours. C'était chaque instant le miracle.
Ah oui, 5 ans de plus que ce qu'on prévoyait.
Chaque instant... Le miracle de la vie, c'est pas ce qui est spontané, ce qui est... allez, hop, c'est... on se met à courir comme un lapin, c'est ça le miracle? Non, c'est pas ça le miracle.
Oui, parce que nous, on espérait, ben, voilà, il retrouve toutes ses fonctions et la vie reprend son cours.
Non. Non, non, non. Il m'a appris que le plus beau miracle, c'est que nous soyons restés unis. Le plus beau miracle, c'est que on se soit acceptés mutuellement, tels que nous étions, avec nos défauts, nos qualités. Le plus beau miracle, c'était tous les jours d'avancer et de vivre. C'est ça le plus beau miracle, de dire que, mon Dieu, je m'endors, merci pour cette journée passée, et quand je me réveille, mon Dieu, merci. Merci de pouvoir ouvrir mes yeux, merci de pouvoir voir mes enfants, de pouvoir vivre, de pouvoir manger à ma faim, de pouvoir, même si la souffrance elle est là, qui n'a pas de souffrance, qui n'a pas de souffrance?
C'est un temps de louange.
Certainement. Mais c'était ça le miracle. C'était ça le miracle. Et nous sommes allés à Lourdes, tous les deux, avec énormément de gens. Le plus beau miracle, justement, c'était d'avoir toute cette communauté d'aidants, de personnel, de gens soignants qui étaient là pour lui. Et c'était ça le plus beau miracle. Nous sommes allés avec quelqu'un qui ne bougeait que sa tête et qui vivait, mais alors, à 100 à l'heure. Et un jour, enfin, ils étaient pendant les préparatifs de ce beau voyage, il y a un médecin qui nous a dit « Mais qu'est-ce que vous allez chercher ? Le miracle, c'est fini, mais vous êtes... Enfin, vous n'avez pas compris que c'est fini ? Enfin, c'est le miracle que vous allez chercher à Lourdes ?» Et mon mari lui a répondu avec un sourire, mais parce que bon, c'était vraiment quelqu'un qui aimait la vie.
Il avait encore l'humour.
Toujours.
Il l'a gardé jusqu'au bout?
Jusqu'au bout, jusqu'à la veille de sa mort.
C'est important?
Oui. Ouais. Oui, c'est important. C'est important. Il était resté lui-même.
Et du coup, alors oui, ce médecin qui se moque un peu en fait.
Non, il se moque pas. Non. Je pense qu'il se moque pas. Je pense qu'il
se révolte pour vous en fait.
Oui, je pense qu'il devait se révolter. Il était désabusé et il devait se dire mais ils sont fous, qu'est-ce qui se passe? Et mon mari lui a dit mais vous savez qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de voir ailleurs, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas à ma place. Contentez-vous de me dire
bon voyage.
Bon voyage. Et nous sommes allés, nous sommes arrivés à Lourdes. J'avais une appréhension, c'était un stress. Un stress et je me suis rendu compte qu'il se portait super bien et nous sommes allés au-delà de nos limites et lui en particulier. Et ça a été une semaine, mais une semaine extraordinaire. Extraordinaire. Et il me disait, tu sais, le plus beau miracle, c'est d'avoir pu voyager comme tout le monde. Sans être sur une civière, de pouvoir partager ces moments intenses et de vivre ces moments de prière et ces moments où on ne vous regarde pas, on ne se voit pas handicapé, on ne se sent pas, je dirais, jugé par le regard des autres, où tout était, c'était une vie simple. Une semaine où vous êtes dans un monde où c'est, je dirais, c'est presque irréel parce que vous ne voyez que des gens sur des civières, vous ne voyez que des gens en fauteuil roulant.
Il s'est senti comme un borgneux parmi les aveugles.
Non, peut-être pas.
Mais en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui souffrent autant ou
oui,
plus.
Oui, ça. Oui, 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 oui.
Et du coup, on a l'impression d'être dans la normalité.
Non, 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 non. On n'est pas. Vous voyez, on est toujours dans la normalité, même si nous étions pas partis à Lourdes, nous étions dans la normalité. Nous étions totalement nous avons toujours été dans la normalité. Nous
n'étions et dans la réalité, en
fait. Et dans la réalité.
La réalité des choses où on se rend compte de ce qu'on doit vivre.
Oui, de ce qu'on doit vivre. On faisait nos courses, on faisait pas tous les jours ensemble, mais on faisait nos courses, on sortait, on allait manger au restaurant, on allait au cinéma.
Ah Il y avait encore tous ces plaisirs de la vie, malgré tout, alors.
Oui, pas les mêmes. Pas dans un rythme de celui qui a deux jambes et qui court et qui a le temps et qui. Non, mais c'était des moments précieux. On avait des moments, il avait ses moments où il allait, il avait sa messe, il priait, il était très encadré et très entouré. Et puis, je vous dis, on a rencontré des personnes déception. Nous avons eu dans notre malheur énormément de chance. Et ça fait grandir, l'épreuve fait grandir.
Et moi, ce qui me pose question, c'est qu'en fait, vous en témoignez. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pousse à raconter ce que vous avez vécu là ?
C'est de dire à ceux qui souffrent que la souffrance n'est pas une fin en soi. Après, chacun a son échelle, hein. Chacun a son passé, chacun a son vécu, chacun a sa personnalité, mais que nous ne sommes jamais seuls. Et en faisant une relecture du passé, je me dis, mais je n'étais pas seule. J'avais Dieu avec moi. Nous avons Dieu avec nous. Et j'ai la conviction qu'il existe pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'ont pas de repères, pour ceux qui se disent mais l'épreuve n'est pas vivable. Eh bien si, l'épreuve est vivable. L'épreuve est vivable. Bon, après on n'est pas maso, hein. On va pas non plus chercher à vivre des épreuves. Je dis pas ça, mais il faut savoir accepter pour avancer. On a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit d'être révolté. Il faut passer toutes ces étapes. Il ne faut rien rater dans toutes les étapes. Il faut savoir accepter. Et à un moment donné, il faut savoir se poser et dire, mon Dieu, je fais des choses selon ta volonté, mais je suis simplement un humain. Et j'ai aussi le droit de vivre. Et je veux continuer à vivre. Pour tout le monde, à un moment donné, quel que soit le... Je me répète, hein. Mais quelle que soit l'épreuve, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous devons la vivre. Nous ne devons pas la braver, parce qu'on ne brave. Mais savoir accepter. Accepter pour continuer.
Et votre mari, alors, il est parti il y a 2 ans.
Oui.
Pour vous, il est où ?
Ah, mais il est là.
Ouais. Il n'est pas au ciel, là-haut, avec les anges ? Enfin, ça, c'est une vision idyllique de la vie après la mort, pour moi, du moins.
Il continue à vivre. C'est encore une autre étape de sa vie.
Ah.
C'est une renaissance.
Ah oui.
Il continue à vivre, c'est une autre... C'est autre chose. Et...
Il vit en vous.
Enfin, il vit en moi, il vit...
C'est juste dans les souvenirs. Enfin, c'est un peu dur de dire ça, excusez-moi.
Non.
Pas que dans les souvenirs ?
Non. Quand on a la foi, il y a toujours la vie après la mort. Et je pense qu'il est bien là où il est. Il a tellement souffert parce que... Il a souffert avec dignité. Il a souffert et il a accepté sa condition. Et nous avons accepté notre condition d'accompagnant. Nous avons accepté notre condition tout court.
Nous.
Lui.
Lui, il n'était pas accompagnant quand même.
Non.
Mais lui, nous,
il nous a... Ah, mais si,
ah.
Si.
Ah bon
si.
Il vous a accompagné.
C'est de lui que je tire ma force, je dirais. Il m'a aidé à survivre à tout ça. Parce qu'il avait accepté, lui, sa condition. Il nous a donné la main, vous savez.
Dans sa faiblesse, il était fragile.
C'était sa force, justement. C'était sa force. Il nous a donné la main, il nous a donné l'exemple. De quoi je me plains maintenant? Je n'ai pas à me plaindre.
Bah si, vous avez perdu votre amoureux. Et vous en êtes toujours amoureuse, je pense.
Oui, tout à fait.
Ça s'entend.
Tout à fait.
Ça doit être dur, non, des fois? Quand même.
Ce qui est dur, c'est...
L'absence.
L'absence, ce charisme qu'il avait. Ce qui est dur, c'est vrai que on a des stéréotypes hein, dans une vie. Et puis, ben, le stéréotype, c'est quoi? On est jeune, beau, on se marie, on s'aime, on fait des enfants, on construit sa vie.
On devient un vieux beau, on devient belle.
Bref, on a le projet de vieillir ensemble, de se voir grands-parents. Et on se dit, mais c'est ça la normalité de la vie. Après, ça aurait pu être un divorce.
Malheureusement, oui, ça existe.
Voilà. Et on apprend à accepter, d'accord? Et dans la mort, c'est pareil, il faut savoir accepter. Il faut savoir accepter et votre conjoint, l'autre ne vous appartient pas, c'est pas votre objet. On est dans un monde où on arrive, on naît, dès la naissance, ben, on n'est pas accompagné, hein? Donc on fait des rencontres et puis ben, les gens partent, viennent et c'est ça la vie. Il faut savoir accepter. Après, accepter ne veut pas dire ne pas être peiné, ne veut pas dire ne pas avoir cette souffrance, cette douleur qui est là, mais savoir aussi accepter que l'autre puisse continuer. Et quelle que soit cette séparation, il faut savoir accepter. Lorsqu'on accepte, je dirais, on doit pas tout accepter, c'est vrai, mais on doit être résilient. Et lorsqu'on devient résilient, la résilience permet de continuer de vivre. La résilience permet de survivre à tout ce qui a été difficile.
Moi, j'ai toujours vu ça comme transcender la souffrance. C'est-à-dire, on a souffert, ok, mais on est plus fort que cette souffrance.
Ah non, non, non. Non, non, on n'est jamais plus fort que cette souffrance.
Malheureusement, non.
Non, 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 c'est pas une question.
Comment, ben, on s'est adapté.
Pas... C'est ce oui, que oui, vous oui. On n'est pas dans un duel où non. On est en train de se dire, bon, je vais être plus fort, je vais te battre, voilà, je vais t'anéantir. Non, non, c'est un combat, mais le combat, c'est quoi? Le combat, c'est de survivre. Le combat, c'est d'accepter. Et le combat, c'est de trouver la voie. Et la voie royale, c'est de se dire, on accepte. On accepte. Accepter, c'est être résilient. Et quand on devient résilient, on survit. Et on a tous le droit au bonheur, on a tous le droit de continuer de vivre. La vie a fait que ben, la mort est passée par là, donc il a une autre forme de vie aujourd'hui. Et nous sommes toujours là et nous devons continuer à vivre. Toujours avec ben, le respect de l'autre et toujours avec cette... on n'oublie pas. On ne doit jamais oublier. On doit toujours continuer. Et la force, cette force que j'ai aujourd'hui de continuer, c'est lui qui me l'a donnée, c'est lui qui m'a inculqué tout ça.
Sa force à lui, il la tenait d'où?
On développe forcément face à l'épreuve, on développe des capacités, on peut aller au-delà de ses limites. Quand on va bien, on se plaint toujours. Et on se dit on n'est pas capable d'eux. Et face à l'épreuve, face à la maladie, on se découvre.